nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Fallait-il montrer le monde romain tel qu'il était ou tel qu'on voulait le voir après-guerre, disons, et au cours des décennies qui suivirent ? Jacques Martin, créateur d'Alix, publié dans Tintin et dont les aventures allaient paraître et paraissent encore chez Casterman, Jacques Martin avait, on s'en doute, sa réponse. En revanche, il ne savait pas ce qu'Alix et Enac faisaient lorsqu'il les perdait de vue. Nuit magnétique, de l'Édipe dans les bulles, première diffusion sur France Culture le 9 décembre 1980.
Bonsoir, de l'Œdipe dans les bulles, une émission de Jean-Marc Terrasse et Bernard Troton, avec ce soir sur le divan, Alix, le délicieux héros du dessinateur franco-belge, Jacques Martin.
Dans le dessin actuel, c'est assez bête.
Dans l'ensemble,
il y en a deux ou trois qui sont bien, tandis que tous les vieux Tintin, tous les Spirou et tout ça, c'est des histoires plausibles qui tiennent debout, qui sont...
Premier épisode. La guerre aurait laissé l'Europe couverte de ruines et de gravats. De Hambourg à Naples, dans les villes pantelantes et effondrées, de grands et jeunes hommes, venus de l'autre côté de l'océan, souriraient en lisant des journaux pleins de dessins et de couleurs. Ils mâchonneraient le képi de biais et les jambes souples, et les enfants qui les regarderaient voudraient, eux aussi, croire que le monde allait être plein de couleurs, de sourires et de progrès.
Moi, je lis le journal de Tintin, mais vieux. Ouais, celui, parce qu'un de mes oncles devait lire ça, je sais plus. Puis quand je vais chez ma grand-mère, il y a des vieux Tintin. Alors ça m'arrive de lire, mais surtout les histoires complètes, quoi. Avant il y a une histoire, une sorte de truc.
À suivre.
Non, c'est une histoire, ça raconte des trucs. Historique, tu vois.
Sans blague.
Mais à part ça, j'ai lu. Ouais, mais c'est
un moment stratégique, à savoir celui où apparemment la bande dessinée d'expression française est complètement colonisée par la bande américaine, à partir de 1934, du journal de Mickey, de l'arrivée de Mandrake, plus tard de Tarzan, qui ne donne pratiquement le choix aux dessinateurs et aux scénaristes de bande dessinée d'expression française que de faire du « à la manière de » ou des
Pascal
petits
Horry,
travaux
historien.
De simples traductions. Ziggy Puce avait été la première bande française utilisant systématiquement la bulle, mais restait assez isolée. D'autre part, c'était une bande qui, visiblement, était encore très dominée par les traditions littéraires. Bon, je dirais européenne et particulièrement française, avec un style de rhétorique et un univers qui était relativement archaïque, brutalement dans les années 30, face à l'irruption du cinéma, face à l'irruption de ce qui était déjà les linéaments de la société de consommation, parce qu'on en parle toujours pour l'après-guerre, mais on peut dire que l'américanisation de la société française était déjà à 90% réalisée dans la culture populaire en 1939. Et la bande dessinée était le secteur le plus américanisé de tous. Et il se produit cette chose étrange que, 20 ans plus tard, la bande dessinée américaine est vraiment résiduelle et marginale.
Deuxième épisode. Romain et blond, libre et gaulois, fier et froid, voilà que viendrait Alix à l'œil fixe. Il aurait le torse nu, le ventre tendu et le bras vaillant. Le voici qui représenterait Rome. Rome, dirait-il, je suis le fils de Caius. De Carthage à la Crète, on me craint. Le voici qui serait face aux Étrusques mystérieux, à leur tombeau et à leur mort. Il dirait les ordres du Sénat et du peuple aux Spartiates indomptables. Il marcherait des jours dans la neige et la souffrance avec les légions perdues. Il irait dans la chaleur et la douleur à la rencontre de pharaons oubliés. Puis, Alix, un jour, tu croiserais Enak, un prince brun d'Égypte, ton double tendre, et vous ne vous quitteriez plus.
Pas perdre de vue que dans nos pays, ici, en France, en Belgique, en Hollande, moins en Hollande, mais en Angleterre et partout, et en Suisse, il y a une censure qui est très simple d'ailleurs, qui correspond
Jacques
à un
Martin.
Article protégeant la jeunesse. Et sous ce vocable-là, on peut condamner n'importe qui. C'est pas, si, par exemple, vous sortez dans la rue avec un peu tout petit peu déboutonné et débraillé, on peut vous dire, monsieur, vous faites une atteinte à la jeunesse, donc on vous met en prison. Tout est possible avec ce truc-là. Alors, bien entendu, avec des publications pour la jeunesse. Personnellement, j'ai été interdit en France à deux reprises, lors de deux albums, pour incitation à la haine et violence. Des albums qui maintenant, depuis plus de 10 ans, sont vendus, je peux le dire, sans fausse vanité, par cent des milliers d'exemplaires, sans choquer personne. Alors, c'est tout à fait ridicule.
Je crois qu'il y a surtout intériorisation par la plupart des créateurs, surtout par les créateurs qui sont en même temps scénaristes et dessinateurs, ce qui, je l'avoue, m'intéresse le plus. Jacobs, Martin, Hergé, Franquin, Machereau, qu'il ne faut pas oublier, qui représente à mon avis très bien la veine animalière qui est importante dans l'école belge. Ces hommes intériorisaient sans trop de drame de conscience cette double censure qui était une censure immédiate, datée de l'après-guerre, lutte contre l'américanisme, moralisation environnante où à peu près tous les camps politiques et idéologiques étaient réunis. Et d'autre part, une vieille tradition catholique sociale qui était assumée par les éditions Casterman et Dupuis, qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des maisons qui sont d'origine catholique, ou en tous les cas sympathique, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal quand on considère l'histoire de la Belgique, au mouvement catholique.
Cher oncle Marc, me demande Pascal Dupont de Perpignan, peux-tu me dire de quand date la parution du premier Alix ? Eh bien, cher petit Pascal, je vais t'en dire plus. Les premières planches de Jacques Martin sont parues en 1947 dans l'hebdomadaire Bravo. Celui-là même qui avait vu les débuts d'Edgar Jacobs. Ça s'appelait Lamar, l'homme invisible. Quant à Alix, puisque c'est ta question, il est né à la fin de l'été 48 dans ton hebdomadaire préféré, Tintin.
«
Alix est né de mon amour de l'histoire. Je vais peut-être un tout petit peu long là parce que l'explication de la naissance d'Alix est un peu compliquée. J'ai toujours été féru d'histoire, à ce point que les professeurs, lorsque j'avais 14-15 ans, me disaient « Vous là-bas, mettez-vous dans le coin, on vous donne 19 pour le principe et fichez-nous la peuple dans le cours. » Bon, je ne dis pas que j'en sais plus qu'eux, mais pas loin. Ceci veut dire que j'étudiais non seulement l'histoire dans les livres classiques, mais dans les livres qui ne l'étaient pas. Et j'avais découvert, vers l'âge de 17-18 ans, un ouvrage signé du professeur Glotz, professeur en Sorbonne, traitant de la présence des Romains en Syrie. Et là-dedans, ce professeur raconte une chose qui m'avait sidéré, et qui me sidère d'ailleurs toujours, qui était la présence d'une légion gauloise de mercenaires pendant que César faisait la conquête de la Gaule, ce qui m'avait absolument stupéfié, parce que on imagine ça mal à l'époque, une chose pareille. Alors bon, ils ont cette légion gauloise de cavaliers là-bas et qui se bat avec Crassus, et Crassus est dans un mauvais jour à la bataille de Carrhée, il perd la bataille, et on, à ce moment-là, d'après Clotz toujours, on perd la trace de cette légion gauloise. Moi, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, mais que sont devenus ces gens-là? Et parce que quand on sait qu'il y avait, à ce moment-là, dans une légion, femmes, enfants, cuisines, péripatéticiennes, comme on dit, etc., 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 parce qu'une légion avait plus de bagages que de troupes combattantes, ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait peut-être pas, ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, là-dedans, il y avait femmes, enfants, etc. Qu'en sont-ils devenus? Et c'est à ce moment-là qu'Alix est apparu dans mon cerveau, si vous voulez, et que j'ai eu envie d'en faire une histoire. Alors j'ai présenté au journal Tintin, et je dois dire, très vite, ils l'ont adapté, parce que c'était un sujet, un personnage absolument inédit dans ce genre-là. Mais on m'a demandé tout de même, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je l'adapte à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le style belge. Mais on me l'a pas imposé. Mais c'était tellement notoire, n'est-ce pas? C'est comme si, à l'heure actuelle, un constructeur automobile présentait une voiture sans pare-brise. C'est exactement ça. Ou une tondeuse à gazon sans roue. Ça existe, remarquez, mais enfin, c'est aberrant. Et on me disait, mais faites comme un tel, regardez, ça a du succès. Et il est pratiquement...
C'était qui un tel?
C'était Jacobs. Il faut dire que le succès du journal Tintin, puisque j'ai fait partie du journal Tintin, le grand succès du journal Tintin en 46-47, c'était Edgar Jacobs avec Le Secret de l'Espadon.
Et maintenant, le coin des petits curieux. Chez le Colin de Californie, seul le mâle porte une huppe de 4 plumes noires, terminée en boule. La femelle pond 24 œufs et elle les couve 23 jours. Chose étrange, le Colin ne dort pas dans son nid, mais en groupe, avec tous ses semblables, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. Le saviez-vous? À New York et à Philadelphie, il y a des restaurants automatiques. 600 000 clients y mangent chaque jour. Les plats sont exposés dans des cages vitrées. Pour les obtenir, on glisse une pièce de monnaie dans une fente et on appuie sur un bouton. Le saviez-vous? Aux USA, les grands hommes sont accueillis par une pluie de confettis, de serpents et de feuilles d'annuaire déchirées en petits morceaux et jetées depuis les fenêtres des grands immeubles qui bordent les avenues. De quoi imprimer Tintin pendant 6 ans.
Ça a un côté petit garçon en culotte courte que j'aime pas du tout. Hein. Oh là là, ça j'aime pas.
Alix, tu veux dire?
Oui. Si mes souvenirs sont bons, parce que je crois que j'ai essayé d'y entrer et j'y suis pas arrivée. Un côté pédophile. Non, j'ai l'impression de feuilleter mon gaffio encore, tu sais, tu te rappelles? Ça par contre, j'aime pas. Ce côté-là de l'enfance, j'aime pas.
J'adore les dessins, mais en même temps, j'aime pas tellement les textes. Et alors là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Alix et son ami Enak, comme dans toutes les bandes dessinées d'Alix. Et... Des Égyptiens
Grégoire,
vont faire croire
12 ans.
À Enak qu'il est le descendant d'un prince. Mais un prophète et une princesse égyptienne essayent de le sauver, quoi, et de le mettre en garde. Parce qu'ils veulent l'utiliser pour leur profit, quoi. Parce qu'ils veulent aussi utiliser Alix pour tuer Jules César, pour qu'il retourne à Rome pour tuer Jules César. Et finalement, Alix essaye de s'échapper. Il y parvient, mais il se fait rattraper. Parce qu'il a volé une sorte de médaille de Amon, un dieu, enfin un ancien pharaon. Et il est protégé grâce à ça, mais il le rattrape quand même. Et il est remis... Il devient esclave, du coup. Mais quand même, il arrive finalement à s'échapper avec Enak à la fin. Et puis tout se finit bien, comme dans toutes les bandes dessinées, je crois.
Tout se finit bien pour Alix et Enak, mais pour les autres, ça se termine comment?
Il y a la princesse égyptienne qui l'aidait à se sauver, meurt. C'est assez triste, d'ailleurs. Et puis aussi, il y avait une sorte de prophète, toujours, qui était accompagné par un tigre. Qui meurt, enfin, qui, je crois qu'il meurt parce qu'on ne voit pas bien s'il meurt ou pas. À la fin, il monte sur une grande roche et puis on voit Alix qui s'en va avec Enak.
La nuit tombe. Et dans la chambre. Alix, tu dors? C'est moi, Saïs. Je somnolais. Tu cours un grave danger, Alix. Je le sais. Et puis mes tarots ne se trompent jamais. Alors j'ai été prendre ce talisman pour toi. C'est le pendentif sacré d'Amon. Cache-le sur ta poitrine. Et en cas de péril, découvre-le. Personne n'osera te toucher, car tu seras comme un dieu. Je suis bien forcé d'accepter, car Djéfer a menacé de me jeter parmi les esclaves. Et si je ne retourne pas à Rome pour tuer le consul, il gardera Enak comme otage. Mais mon frère le pharaon t'a pris sous sa protection. Justement. Écoute, fuis avec Enak, et va jusqu'au village de Faoum, vers le nord. Là, tu iras chez les parents de ma servante Manouk. Son père s'appelle Kedi et il te cachera. Dans quelques jours, je te rejoindrai. Merci, tu es merveilleuse, Saïs. Elle se jette dans ses bras. Tu es d'accord, Alix? Oh, que nous allons être heureux.
Sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 oh yes. You tell me.
Troisième épisode. L'homme prendrait Alix évanoui dans ses bras et le jeune homme lui semblerait fragile. Il le porterait longtemps à travers la montagne et il sentirait son corps agité de spasmes nerveux se réveiller peu à peu. Enfin, au bout du chemin, il le poserait sur une couche de paille et Alix ouvrirait les yeux sur lui.
Tout de suite, il a pris option, il a joué le jeu. Hein, et j'ai joué le jeu parce que moi je suis un méditerranéen, je ne peux pas faire autrement que de faire d'Alix un personnage méditerranéen, c'est certain. Je ne pourrais pas en faire un viking, ça c'est certain. Et alors on m'a dit oui, c'est un traître, etc. Je réponds à ça non, ce n'est pas vrai. Parce que à l'époque il n'y avait pas de nation gauloise. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus perdre de vue, une fois de plus, que. Au moment où les tribus gauloises ont fait venir César en Gaule, c'était à leur demande pour se battre contre les tribus germaines qui avaient envahi la Gaule et qu'il n'y avait pas de nation gauloise. Vercingétorix a bien essayé, mais en fait, l'aventure de Vercingétorix, c'est un échec que je me propose d'illustrer très bientôt dans un épisode qui s'intitulera tout simplement Vercingétorix.
En même temps, il est bon, puis des moments, il est... Enfin, oui, il est plutôt bon dans l'ensemble. Et c'est un peu un justicier, quoi, si on veut. Un peu comme beaucoup des héros de Jacques Martin. Par exemple, aussi l'autre bande dessinée qu'il fait, c'est... Je sais plus comment s'appelle le héros.
Le Franc,
oui. Et c'est aussi le héros. C'est toujours le même genre de héros, mais pas dans les mêmes époques, quoi. C'est toujours...
Ça veut dire quoi, le même genre de héros, pour toi?
Je veux dire que... Si... ils ont un peu les mêmes gestes, si on veut, mais même s'ils ne sont pas, ils ne vivent pas à la même époque. Et ils se ressemblent beaucoup, premièrement. Et on confond beaucoup les deux bandes dessinées parce qu'il y a les mêmes dessins, bien que ça ne se passe pas, encore une fois, à la même époque. Et en même temps, c'est assez différent et c'est très proche, et c'est difficile à dire. Puis aussi les personnages, par exemple, Alix, dans Alix, il a toujours un ami avec lui, et le franc, c'est exactement la même chose. Il a toujours quelqu'un qui l'accompagne. Enfin, l'ami, si on veut, mais plus petit, quoi. Enfin, un ami, mais en même temps... quelqu'un qu'ils aiment bien, quoi. Quelqu'un qui les accompagne dans les aventures. C'est un peu comme Tintin et Milou, quoi, mais c'est pas... Sauf que c'est pas des animaux, c'est des personnages, quoi. C'est à cause d'eux, ou grâce à eux, que l'histoire se développe. Par exemple, Pénac, là, cette bande dessinée, le prince du Nil, c'est à cause ou grâce à lui que Alix est entraîné dans l'histoire. Et souvent, le franc, c'est Jean-Jean qui se fait enlever, etc. Donc c'est... C'est toujours, ils sont toujours entraînés par
l'autre.
Ouais, par l'autre.
Jean-Louis Bory parlerait des jupettes d'Alix. D'autres critiques, les vilains, y décèleraient un penchant pour les caresses masculines.
Ah mais Jean-Louis Bory ne me reprochait pas des petites jupettes. Jean-Louis Bory était enchanté de la petite jupette dans Alix. Ça, alors il ne me reprochait absolument pas ça, croyez-moi. Non, vous faites aller sur certains articles qui ont paru. Tout compte fait, que je ne puis pas désapprouver complètement, il est évident que j'essaye, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de montrer ce qu'étaient les mœurs à l'époque et que je montre une certaine forme de ô combien édulcorée, ô combien adoucie, mais c'en est déjà trop.
Écoutez, regardons le prince du Nil, l'histoire du prince du Nil, par exemple. Un frère et une sœur qui sont pharaons. Sont amoureux d'Alix et Enac. En fait, le pharaon est amoureux d'Enac, la sœur est amoureuse d'Alix, et ils vont se déchirer et se disputer autour du... C'est une histoire de jalousie, et finalement ils l'emporteront pas. Alix et Enac partiront quand même ensemble, la morale d'Alix sera sauve. Est-ce que ce schématisme de l'histoire vous paraît satisfaisant?
Tout à fait, en fait c'est ça, c'est ce que je voulais dire, mais peut-être qu'on trouve ça choquant à notre époque, mais à cette période-là, ça ne l'était pas.
Le couple Alix-Enac est fragile, alors.
Mais ce n'est pas un couple, attention, dans le sens véritable. Je vais vous dire, franchement, entre nous, je ne sais pas ce qu'ils font. Une fois que je les perds de vue, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Je n'en sais rien du tout.
La grande divergence, ce serait Martin, à mon avis. Ce qui en fait l'intérêt, c'est-à-dire que l'univers de Martin est un univers fort peu marqué de christianisme, par définition, puisque c'est un univers de l'Antiquité, et d'autre part, où la dimension masculine, voire homosexuelle, latente, est beaucoup plus marquée qu'ailleurs. Quand j'étais un consommateur naïf de la bande dessinée d'école belge, parfois j'avais une petite surprise, qui n'allait pas au-delà, puisque j'étais ensuite entraîné par l'intrigue, devant un certain nombre de débuts d'albums, surtout dans les plus récents, où on voyait par exemple Spirou et Fantasio, ou Tintin et Haddock, qui étaient surpris au début de l'histoire, ensemble, ils étaient en train de se laver les dents, ils vivaient visiblement ensemble. Bon, alors ça me traversait l'esprit, et puis je n'y revenais pas.
Maintenant, rions un peu. Éric Amptas, de Marseille, nous envoie une belle histoire très amusante. Marius arrive à Paris au volant d'une immense voiture. Il descend acheter des cigarettes et laisse la portière ouverte. À son retour, un agent est là. Monsieur, dit-il à Marius, quand vous s'astonnerez sur un passage clouté, ce sont les deux portières qu'il faut laisser ouvertes pour que les piétons puissent passer. Éric Arnoux nous envoie une autre histoire, tout aussi amusante. À la foire, un marchand de cycles veut à tout prix vendre une bicyclette à un brave fermier. « Non, je suis venu acheter une vache. »« Mais réfléchissez, que de temps gagné pour vos déplacements, pour circuler. Vous n'allez quand même pas grimper sur le dos de votre vache. »« Non, mais est-ce que je vais traire votre bicyclette ?» Et enfin, Catherine Clavier. Monsieur le curé répare la clôture de son jardin. Tom le regarde, très intéressé. « Alors, dit monsieur le curé, tu veux apprendre à planter des clous ?»« Oh non, papa en plante aussi. » Mais je veux savoir ce que dit un prêtre quand il se tape sur les doigts. Un grand bravo à Éric Amptaz, Éric Arnoux et Catherine Clavier. Ils recevront un abonnement de 6 mois à leur hebdomadaire préféré. Tintin, bien sûr.
Plus ou moins raconté, plus ou moins trahi, c'est évident. Je ne pourrais pas raconter ou dessiner quelque chose autrement que comme je l'ai fait. Ça évolue bien sûr, mais enfin, c'est ainsi. Et j'ai décrit ce que je pensais, ce que je rêvais, ce que je souhaitais, etc. Et pour moi, qui suis imbu de civilisation gréco-romaine, surtout grecque, j'ai cherché, sciemment ou inconsciemment, à défendre le point de vue grec. Le point de vue grec, entendons-nous bien, pas actuel, parce que je ne le connais pas bien, mais le point de vue grec de Platon, de Socrate, etc. J'ai cherché à montrer, et je cherche toujours à montrer, ce qu'était le monde antique. Ce n'est pas facile, parce que je m'adresse à un public qui va, disons, de 8 à 60, 88, si vous voulez. Et il est très difficile de travailler pour un public aussi étendu. Bon, si je ne travaillais que pour un public adulte, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Mais étant donné que je dessine aussi pour ces jeunes lecteurs qui seraient, je crois, pour pas mal, très déçus si je ne pouvais plus être lu par eux, ça m'oblige à tenir compte de certaines censures, etc. etc. Bon, ça m'oblige à édulcorer et à faire attention, à décorer certaines choses et certaines histoires, et à faire attention à ce que je raconte, à ce que je dis, c'est-à-dire à mettre des parenthèses, à mettre certains voiles, etc. Je ne peux pas...
Le monde antique, le monde romain ou gréco-romain que vous décrivez était plus libre que le monde contemporain ? Acceptait beaucoup plus de choses ?
Mais sans le moindre doute, je vais raconter une anecdote qui est impensable à notre époque. Imaginez-vous qu'à un moment donné à Rome, il y a eu un édit du Sénat obligeant tous les hommes à se balader le sexalaire. Pourquoi ? Parce qu'on voulait savoir quels étaient les juifs des non-juifs. Vous imaginez ça à notre époque ? Donc, il n'avait absolument pas le concept du péché. Ça ne choquait personne. Personne ne s'est révolté contre cela. Ils ont pris ça comme ça. Non, pas du tout.
Ça date de quand, ça ?
Ça date de l'époque un peu avant Néron. Un peu avant Néron.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré 6 mois, mais enfin bon, moi je sais ça, mais il y a très peu de gens qui connaissent cette anecdote. D'autre part, je tiens à dire ceci, en ce qui concerne Néron, puisque nous en parlons. Néron a été condamné par les moines du Moyen-Âge, mais les Romains n'ont absolument pas condamné Néron. Néron était un personnage qu'ils adoraient. La meilleure preuve, c'est qu'après la mort de Néron, imaginez-vous ça à notre époque, on a fait une statue gigantesque en l'or de Néron, et que pendant des années, des centaines d'années, jusqu'à la fin de l'Empire romain, jusqu'à la chute de l'Empire romain, cette statue en or gigantesque a été près du Colisée, et que personne n'en a pris une brique.
They're walking around the bed, on the head, clickety-clockety, arrayed in great big elephants on parade.
Et maintenant, une petite colle. Quel est le mot de 8 lettres qui peut se lire en épelant 3 lettres et qui contient 4 voyelles, toutes les mêmes ? Réfléchissez, vous avez 5 secondes. Vous n'avez pas trouvé ? Trop tard ? C'est éphémère !
and can certainly give you an awful fright. What a sight!
Chase him away, chase him away. I'm afraid, need your aid. Big elephants on parade.
Big elephants.
Le cas d'Alix est assez particulier parce qu'effectivement, il a servi de base à beaucoup d'exégèses et on a voulu y voir des tas de choses, et pourquoi ne pas le dire.
Jean-Michel Charlier.
Comment dirais-je, une certaine propension à l'homosexualité ou à la... C'est possible, hein, je vous dirais, personnellement, c'est une bande qui ne m'a jamais beaucoup inspiré, probablement à cause de ça d'ailleurs, à cause d'une mièvrerie, presque plus du dessin d'ailleurs que des personnages encore. Exactement comme c'était un très bon dessinateur encore qui n'est pas fait de bande dessinée, il faisait surtout des couvertures de bouquins, des calendriers, etc. Ce dessinateur qui s'appelait Joubert et qui a dessiné énormément de Boy Scouts, et personnellement son dessin m'a toujours mis très mal à l'aise.
Mais de toute façon les bandes dessinées ça a toujours été le thème des bons et des méchants. Avant c'était Lucky Luke et maintenant c'est autre chose, c'est différent un petit peu, mais c'est toujours l'histoire sur les bons et les méchants.
Attends, t'es arrivé, ouais. Voilà.
Entre les vieilles bandes dessinées et celles de maintenant, il y a simplement le rôle des bons et des méchants qui a changé, je suis désolée. Avant, c'était d'autres gens qui étaient les bons et d'autres gens qui étaient les méchants, maintenant c'est le contraire, mais c'est toujours la même chose.
C'est aussi peignier que possible, Alix et Enac. C'est... Bon, mais ça évoque ce dont je parlais tout à l'heure, la paire diable noir et diable blond. Ça évoque, le schéma revient tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a la paire, il y a Corentin, avec qui a le même âge à peu près qu'Alix, qui date des premiers temps de Tintin, et qui a un copain, basané, et avec le cheveu de jet, comme Enac, qui est un peu princier toujours. Il y a Cory le Moussaillon, qui a un copain qui s'appelle François, qui est blond. Cory est brun, alors c'est... Non, Cory est... Si, peut-être que... Non, Cory est blond, je crois, et son copain est brun. Bon, c'est toujours les mêmes... Il y aurait moyen d'en trouver, je suppose, des... Je suis pas savant en la matière, mais il y aurait moyen d'en trouver des kyriels, comme ça. Si, il y a les...
Bayon.
Si dans ce domaine, dans le domaine des pères, comme ça, il y a eu un effort de fait récemment, mais qui était plus conscient, c'était Chaland. Yves Chaland, qui a fait un fameux coup dans Métal Hurlant. Il a réussi à présenter dans le cadre de bandes qui sont un petit peu farfelues, qui sont des parodies un peu de Tillieux, de gens comme ça. Il a réussi à faire passer comme une lettre à la poste un rapport. Mais je vais devenir spécialiste des rapports pédérastiques. Un rapport pédérastique entre un inspecteur, je ne sais plus comment il s'appelait, Bonnet, je crois, et un gamin. Qui est une espèce de petit crétin à casquette, comme il y en avait chez Tillieux. Il y avait un héros de Tillieux, comme ça, qui avait un petit béret, qui était assez marrant, d'ailleurs. Et bon, dans une scène, on voit à un moment donné l'inspecteur qui a sauvé son petit copain, et on passe d'une vignette à l'autre, et la vignette suivante, c'est le matin, on entend une sonnette à la porte, dring, et on voit le gamin qui va vers la porte, et manifestement il sort d'un lit dans lequel est couché l'autre. Donc c'est très très bien amené, parce que ça, si on n'y est pas attentif, on relève rien. Et c'est un peu peut-être le même problème avec Alix et Enac, c'est-à-dire que si on ne cherche pas Anguille sous roche, ça passe comme une lettre à la poste. C'est la grande force de ça. C'est pour ça que c'est profondément subversif, parce que tout a l'air anodin. Pourquoi est-ce que ces jeunes gens ne seraient pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'ils prendraient pas est-ce qu'ils se rafraîchiraient pas ensemble?
Pourquoi ils ne dormiraient pas dans le même lit?
Voilà. Je ne vous le fais pas dire.
Thank you.
sommes influencés par le judéo-christianisme, et d'où le concept des péchés, ce qu'on ignorait parfaitement les Romains. Donc l'homosexualité, l'hétérosexualité, pour eux, ne posait pas de problème. Maintenant, ça nous en pose.
Alors, ça doit poser des problèmes de raconter aujourd'hui une histoire où il y a de l'homosexualité et de l'hétérosexualité d'une manière naturelle et quotidienne, dans un monde qui considère ça comme un péché.
Mais bien sûr. D'ailleurs, on me le reproche assez souvent. Au début, il veut faire du prosélytisme. Ce n'est pas vrai. J'essaye, dans la mesure du possible, de raconter et de montrer ce qu'était l'Antiquité. Et je dois encore en gommer énormément, beaucoup, à mon corps défendant, parce que je ne peux pas faire ce que je veux, ce qui est toujours assez frustrant. Mais vous savez, me raconter l'histoire d'Alexandre le Grand, c'est pas possible. C'est possible parce que j'ai constaté une chose, n'est-ce pas, quand on lit. Je cite un exemple. On cite toutes sortes d'histoires d'Alexandre le Grand à l'heure actuelle. Eh bien, très peu d'histoires, d'historiens à l'heure actuelle, parlent d'Héphaestion. Héphaestion était le mignon, le favori d'Alexandre le Grand. Mais il y a des historiens actuels qui l'ont littéralement gommé. On n'en parle pas. Mais c'est tout à fait. C'est ridicule, moi je trouve ça absurde.
Le paradoxe est dans ce moralisme catholique qui a fini par fournir un certain nombre d'imageries particulièrement riches, diront les uns, ambiguës, diront les autres, selon leur position.
Je dois vous dire que les bonnes mères de famille, les grands-mères, les bobonnes, comme on dit, ne me reprochent rien du tout. Ce sont des esthètes qui me reprochent certaines choses. Ce sont des gens, ce qu'on appelle les intellectuels, certains intellectuels qui trouvent là matière à gloser. Mais je constate une chose, c'est que les grands-mères, les bobonnes, les messieurs bien établis ne me reprochent absolument rien. Je vous répète ici une anecdote que je vous ai contée tout à l'heure. Dans une ville de province française, lors d'une séance de dédicace, des messieurs qui allaient du juge de paix à l'avocat, qui allaient du grand médecin, etc., au promoteur régional, m'ont convoqué dans un coin de la salle du cocktail et m'ont dit « Surtout, continuez de grâce, ne changez rien à ce que vous faites. » Donc, je correspond et nos enfants lisent ça avec grand intérêt. Autre anecdote, je me trouvais dans une ville du sud de la France, dans une séance dédicace, et un monsieur a fait 150 km pour venir me voir, et 150 pour venir, il devait retourner, donc il a fait 300 km la journée, et il me présente avec ses petits-enfants, il dit, tu voyez, c'est lui qui a fait ça, et ce qu'il dit, c'est vrai, vous devez bien vous imprimer. Eh bien, monsieur, il a lu entre lignes, ce monsieur aussi, il sait quoi, et ça ne l'effarouche pas, au contraire, il trouve ça très bien.
Quatrième épisode. Dans ce monde, les fantômes passeraient sur la pointe des pieds et on les entendrait, la nuit, avec le bruit de leurs chaînes. Alix ferait rêver les enfants et les adultes auraient des fantasmes où il serait question d'Alix.
On fantasmait comme ça. Alors, vous savez, les fantasmes d'un homme supérieur sont supérieurs, mais les fantasmes d'un homme qui n'a pas
Georges Volinsky,
culture ni d'imagination, ce qui est en général le lot des dessinateurs de bandes dessinées qui, malheureusement, ont des fantasmes. Ouais, je sais plus où j'en étais. Bon, enfin, après ça, il y a eu la peu que cette époque, je dis des méchancetés.
Quand on dit. Et on le dit, et on en rit à l'heure actuelle, que César était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Mais c'est la vérité. Ça, c'est le monde romain. Alors, il faut prendre le monde romain comme il était ou comme on le veut. Il faudrait s'entendre. Moi, j'essaie de le montrer comme il était. dans la mesure du possible, encore une fois, c'est édulcoré. Aussi bien, je l'avoue, aussi bien que je ne peux pas montrer les statues peintes comme elles l'étaient. Parce que si je montre une statue dans le forum peinte comme elle l'était, on m'a déjà fait la remarque, on dit pourquoi vous mettez un type tout debout sur un piédestal là ? Parce que avec nos procédés d'impression, on n'arrive pas, nous, à distancier une statue d'un piédestal en couleur d'un personnage réel. Je n'ai pas la troisième dimension, comprenez-vous. Quand, dans le fils de Spartacus, j'ai dessiné quelqu'un qui se baignait avec les petits garçons, mais c'est les petits garçons, les petits enfants, hein, qui lui faisaient des douceurs, comme on dit, mais ça s'est vu X fois dans le monde romain. Je montre quelque chose, bien gentiment, qui était des mœurs absolument admis et connues, mais que l'on cherche à effacer à notre monde. Donc, c'est à notre époque que nous sommes tartuffes. C'est à notre époque que nous sommes hypocrites.
Dans Alix, les bons deviennent méchants, les méchants deviennent bons.
Moi, j'aime pas Alix.
Ça se base assez souvent sur des éléments historiques quand même qui sont vraiment passés. Par exemple, je crois que c'est le Sphinx d'or, bon, ça commence quand il y a les versages de Tariq Sistran, tout ça. Ça s'est quand même basé sur des faits historiques.
Moi justement, j'aime pas Alix, je trouve qu'il n'y a pas la moindre différence avec Tintin.
C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il tombe dans la fosse de je sais pas quoi, il est sauvé par. C'est pas Milou, c'est je sais pas quoi.
Je crois que Martin, justement, n'a jamais foncé vraiment à fond dans le sujet. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais pu chez Casterman à une époque. Alors maintenant, ça se dégage petit à petit. Il a tellement été frustré de ne pouvoir exprimer ça jusqu'au bout que bon, maintenant, il commence à le faire un petit peu. Mais sinon, moi, je n'y vois pas du tout de perversion. Je trouve ça très bien. Je ne suis pas choqué par l'homosexualité d'Alix. Je m'en fous complètement.
Cinquième épisode. Les gens porteraient des masques et changeraient leur voix. Parfois même, ils changeraient leur sexe, comme s'ils étaient nés des amours tendres de Socrate et de Marie Shelley.
Il y a un premier rapport relativement... complexe qui se joue entre Jacques Martin et ses créatures. C'est un regard un rapport de voyeur, de voyeurisme, un rapport de voyeur à un personnage vu ou observé, et puis un rapport entre les personnages qui sont créés par Jacques Martin. Alors il y a des adultes d'un côté qui sont des hommes et des enfants qui sont des garçons, et c'est toujours comme ça. Il y a des rapports entre les enfants aussi. Il y a Alix et Enac. Et c'est une paire qui se retrouve tout le temps. C'est-à-dire que cette paire-là, elle apparaît dans tous les autres... Elle apparaissait dans Prince Valiant, qui est quand même la référence la plus forte en la matière. C'est-à-dire qu'on a jamais fait mieux que Prince Valiant en matière de littérature suggestive. Je me souviens de scènes... Mais j'ai découvert ça très récemment. Prince Valiant, c'est un ami qui m'a présenté ça il y a 2-3 ans, et je me souviens de scènes de bain entre Prince Valiant et des princes protecteurs qui étaient justifiés par l'action plus ou moins, mais qui étaient manifestement des scènes homosexuelles, des scènes d'abandon comme ça. Ouais. Parce que la seule femme qui intervienne dans l'enfant grec, par exemple, ce n'est pas une femme. Donc c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est une femme qui est niée. Elle apparaît comme femme au début et c'est un travesti, en fait. C'est-à-dire c'est un garçon qui est amoureux d'Alix et qui veut effectivement séparer Alix et Enac. Non, c'est trop... Moi, ça me... C'est vrai que c'est marrant tout ça, parce qu'il y a quand même un grand pouvoir subversif. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand même Alix, parce que c'est très très subversif, dans la mesure où Jacques Martin apparemment lui-même a l'air dupe de ses propres stratagèmes, c'est-à-dire qu'il a l'impression de ne pas faire subversion en manipulant Alix et Enac comme il le fait, alors que ses personnages sont aussi subversifs que possible, puisqu'il trimballe un message pédérastique dans un milieu où normalement le bon ton et les dominent.
Le cas limite serait représenté par Martin, dont les héros sont cette fois-ci des adolescents et non pas de jeunes adultes, comme dans Spirou et Fantasio, ou des adultes déjà chenus, comme dans Black et Mortimer. Et il est clair qu'en choisissant un monde marqué d'hellénisme et de romanité antique, apparemment, Thor a raison d'ailleurs, absent des considérations de péché de la morale judéo-chrétienne, Martin s'est donné la possibilité de jouer sur ce tableau-là. Et je crois que les derniers albums, en particulier L'Enfant grec, sont fort peu équivoques sur ce plan-là, à savoir le traitement graphique des corps adolescents et de leur dénudement partiel ou totaux. Et également, dans cet dernier album, dans cet Enfant grec, le fait que d'autres jeunes adolescents entrent dans la danse, puisque Alix et Enac, les deux personnages principaux, Enac qui est d'ailleurs un prince égyptien, et on pourrait faire des rapprochements avec cette autre tradition masculine et homosexuelle latente qui est celle du prince Eric, qui est contemporaine d'ailleurs des premiers albums de l'école belge, et qui est également issu d'un milieu scout catholique, je referme la parenthèse. Donc, Alix et Enac rencontrent dans leur dernière aventure deux autres adolescents, dont l'un se révèle vers la page 45 être une fille, Archéloïs, qui devient Archéloa, Archéloïs qui fait penser d'ailleurs à Antinoüs, le favori, le giton de l'empereur Adrien, divinisé par son maître après son suicide. Et Archéloïs se révèle Archéloa. Bon, on l'apprend en page 45, page, je crois, 48 ou quelque chose comme ça, la dernière page de cet album. Le personnage masculin de l'aventure, qui est un Romain encore assez jeune et protecteur, parle de nouveau d'Archéloïs, c'est-à-dire que pour les besoins peut-être de l'intrigue ou pour d'autres besoins que je ne cherche pas à analyser plus avant, parce que à la limite, je dirais que ça ne m'intéresse pas tellement de foyer dans le commentaire, je livre simplement des informations qui me sautent aux yeux comme ça. Après donc ce petit moment où pour l'intrigue Archéloïs est devenu Archéloa, voici de nouveau Archéloïs. Alors est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? À la limite ça n'intéresse plus Martin.
Il n'y a pas de changement de sexe. Au départ Archéloïs est une fille et elle reste une fille jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans ce que j'ai voulu raconter, ce que j'ai voulu dire, c'est encore une histoire d'intolérance, n'est-ce pas? C'est que pour pouvoir hériter de son père, il n'y avait pas d'autre solution que d'en faire un garçon. Donc, il y a le problème qui illustre le cas d'un père qui, pour essayer de pallier des lois iniques, fait de sa fille un garçon. Cette fille se sent mal à l'aise. La meilleure preuve, c'est qu'elle elle fait la cour à Alix. Elle essaye d'avoir des contacts relativement agréables avec Alix, qui, lui, le reçoit mal. Bon. Pour finir, on dévoile d'une façon, je ne sais pas si vous venez du livre, mais dans l'amphithéâtre, on dévoile le sexe de la fille, ce qui ne choque pas les Romains. Ils sont choqués parce que, ce qui ne choque pas les Grecs, pardon. Ils sont choqués uniquement parce que cette fille dévoile les turpitudes de son père. Ça les choque. Mais pas le fait que c'est une fille cachée sous l'apparence d'un garçon. Ça ne choquait pas le monde gréco-romain. Alors actuel, ça ne choquerait pas tellement non plus, d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais c'est ça que Alors tout de suite, on a dit, c'est un travesti. Mais ce n'est pas un travesti. Je m'insurge contre cette façon de voir. Ce n'est pas un travesti. C'est une fille changée en garçon. C'est tout. Je n'ai pas encore illustré de travesti et je n'envisage pas d'en faire pour l'instant. Oh!
Et maintenant, une petite devinette. Qui est Tiff et qui est Tondu? Qui est Blondin et qui est Cirage? Qui est Duponté et qui est Dupondé?
Dans la période classique, il y a grosso modo deux types de couples, et très fréquemment des couples, effectivement. Rarement des héros solitaires, ou du moins au bout de deux ou trois albums, ils cessent d'être solitaires. Il y a un couple entre le héros et un animal, style Tintin et Milou, ou bien alors des couples de même sexe, je dirais homosexuels au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de même sexe. Je répète que c'était une des conditions, mais je constate aussi que quand les associations catholiques et familiales françaises ont demandé à Hergé de créer une bande où une famille serait mentionnée, et non plus ses couples, quand même en état de vagabondage par rapport à la famille. Il a créé Josette et Joko dans les années 30 pour Cœur Vaillant. Bon, ça a été finalement plutôt un appauvrissement sur le plan graphique, sur le plan de l'intrigue, et les amateurs de Tintin considèrent que la série de Josette et Joko est une gentille série, un petit peu ennuyeuse, et dans laquelle Hergé n'a visiblement pas investi le maximum. Or, nous avions là la parfaite famille pondérée, avec un père et une mère d'ailleurs quasiment transparents et peu mobilisateurs pour le lecteur, et deux héroïnes, cette fois-ci un garçon et une fille, à des âges assez bas pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et qui étaient lancés dans une aventure où ils étaient finalement extrêmement passifs. Il y a donc eu un échec d'Hergé quand il a voulu se mettre vraiment dans les conditions qui lui étaient posées par le moralisme, cette fois-ci explicite.
Le scénario est très bien fait, on passe d'une image à l'autre naturellement. Et puis il est tout le temps en péril, il s'en sort souvent assez mal. Mais on s'attend pas tellement à la fin de l'histoire. C'est pas évident.
Mais quand on lit Tintin, quand on regarde simplement les images sans lire, on comprend l'histoire. Mais quand on lit un Alix, par exemple, sans regarder les dialogues, on ne comprend pas l'histoire.
J'ai proposé un scénario, genre Tintin qui m'a dit « Pourquoi voulez-vous faire ça, Alix? Ça marche très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce personnage qui est en concurrence avec des tas d'autres sujets ?» Et j'ai bataillé pour essayer de faire du Lefranc. Et alors, je ne me suis pas embarrassé, puisque j'ai cherché à écrire une histoire et non pas un personnage. J'ai pris Alix à l'état actuel, à l'état moderne. Bon, je fais cette histoire en 52, et il se trouve qu'elle a beaucoup de succès. Et quand je voulais représenter une histoire d'Alix, on m'a dit « Pourquoi vous voulez faire Alix, mais Lefranc, ça marche très bien ?» Donc, vous savez qu'on est piégé. Et alors, c'est la raison pour laquelle j'ai cherché par après à faire... à alterner une histoire de Lefranc et d'Alix. Mais je n'ai jamais caché que Lefranc était un Alix transposé à l'époque moderne. Je n'ai pas imaginé, je n'ai pas voulu imaginer un personnage transcendant, inusité, tout à fait exceptionnel. J'ai pris tout simplement la transposition d'Alix à l'époque moderne. Les lecteurs m'ont imposé deux personnages dans ma vie d'auteur de bande dessinée. Ce sont Enak et Borg. Quand j'ai sorti Enak dans le Sphinx d'Or, pour moi, il devait faire le parcours du Sphinx d'Or et pas plus. Et ce sont la quantité de lettres de lecteurs qui m'ont imposé le retour d'urgence d'Enak et la même chose avec Borg. Et alors, c'est un personnage qui s'est enrichi, c'est-à-dire que je n'ai pas fait un personnage ultra mauvais. Et en fait, la vedette, c'est Borg qui l'a, c'est pas Lefranc, c'est certain.
Dans Lefranc, il n'y a pas beaucoup d'héroïnes. C'est très différent pour ça, justement. Mais dans Alix, enfin, les rapports entre les personnages sont... aussi, il y a les rapports entre Alix et l'autre prince, ils ne se parlent presque jamais. Juste pour dire qu'ils se remercient à un moment dans l'histoire, mais sinon, ils ne se parlent jamais.
Tu veux dire qu'ils sont jaloux l'un de l'autre?
Pas vraiment, non. Pas vraiment, mais... Je sais pas, ils n'ont pas vraiment de contact, quoi. Ils ne sont pas tellement amis, ni ennemis, quoi. Enfin, je trouve que Jacques Martin a voulu le faire comme ça, c'est... Enfin, c'est lui qui l'a fait, quoi. On peut pas changer. Ouais.
Sixième épisode. Alors, la terre se mettrait à trembler. Des rats de marée emporteraient les villes. Les volcans jetteraient dans le ciel des laves brûlantes qui engloutiraient le monde et ne laisseraient plus qu'un amas de cendres noires. Mais le monde serait enfin purifié.
Eccola! Ah! Ahimè!
Cos'hai?
E che va questo mai?
Je vous propose maintenant peut-être une interprétation. Chaque fois que dans Alix, il y a un contact ou un rapport homosexuel ou homosexuel latent, une caresse, deux hommes qui se prennent dans les bras l'un de l'autre, etc. Il y en a quand même un petit peu. Il est souvent sauvé de péril, comme ça. Et assez rapidement, il y a des catastrophes qui se produisent, c'est-à-dire la terre qui s'entrouvre, des volcans qui entrent en fusion ou des mondes ou des villes entières qui s'écroulent. Comme dans Le Prince du Nil, par exemple, mais dans des tas d'autres. Alors qu'est-ce que...
Mais écoutez,
qu'est-ce que c'est que ça ?
Je ne sais pas. Vous savez, moi, je ne m'analyse pas. Je ne sais pas. Vous me dites que chaque fois qu'il y a des attouchements précieux entre des individus, il y a des catastrophes. Vous me l'annoncez parce que j'en savais rien. C'est possible. Je ne sais pas. Il faudrait que je réalise ce que j'ai fait. Je ne le crois pas forcément. Mais il y a un catastrophe. Oh là, j'avais pas dit, un catastrophisme chez moi, au point que il y a un critique de bande dessinée qui envisage de faire un livre qui s'intitulera Le catastrophisme chez Jacques Martin. Oui. Bon, je sais que c'est une idée qu'il a, est-ce qu'il la réalisera ou pas, j'en sais rien. Mais en effet, je dois reconnaître qu'il y a chez moi, à mon insu d'ailleurs, contre ma volonté apparente, mais ma volonté profonde est plus forte, des leitmotifs qui reviennent. C'est ainsi que je n'arrive pas à faire une histoire sans lieu secret. Je n'arrive pas à faire une histoire sans catastrophe. Il y a toujours quelque chose qui se déglingue, qui se démolit, qui explose. Et ce n'est pas voulu. Au départ, ce n'est pas voulu. Donc, un psychanalyste pourrait répondre beaucoup mieux que moi. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je fais ça comme ça. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai retrouvé des dessins que j'avais fait à 11, 12, 13 ans. Il y avait déjà des souterrains, il y avait déjà des grottes, il y avait déjà des gens qui se cachaient. J'éprouve le besoin de chaque fois faire des gens qui se cachent. Mais à chaque histoire, je me dis, c'est la dernière fois, dans la prochaine, il n'y en aura pas. Et automatiquement, il y en a. Et à mon insu, je vous certifie, ce n'est pas voulu, ce n'est pas concerté. Et ça, dans un certain sens, ça me chagrine parce que je n'arrive pas à être maître de... Mais même dans Le Franc, vous savez, dans Le Franc, il y a des... Par exemple, j'envisage de faire bientôt une histoire de Le Franc qui va s'intituler La Crypte. C'est que c'est encore un lieu caché, un lieu secret. J'aboutis toujours là-dessus. Hein? C'est pas de ma faute. Mais les bons sujets que je trouve, il y a toujours un lieu secret, un lieu caché.
C'était Nuit magnétique de l'Édipe dans les bulles, Alix ou Le tremblement de terre par Jean-Marc Terrasse. Réalisation Bernard Treton. Première diffusion sur France Culture le 9 décembre 1980. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.